Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Et ce lundi marque le retour de Bertrand Chameroy après sa semaine de vacances. On se réjouit de retrouver son écran de veille. Évidemment, aussi, également, oui, je sais, ça fait trois adverbes. Eva Rock pour son zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Janton et les audiences avec Louise Bernard. Notre infomédia se penche sur des appels anonymes, des menaces de mort jusqu'à des boulons retirés sur une roue de voiture d'une journaliste. Elle sera avec nous. Cette affaire met en lumière une réalité dont on parle peu, les pressions subies par les médias locaux qui osent faire de l'investigation et qui publient des enquêtes. Pressions politiques, économiques et parfois physiques, comme je viens de le dire. Puis nos invités, Charles Anderlin, figure dans le monde du journalisme, pas seulement français mais international. Il a tenu le bureau de France 2 à Jérusalem de 1991 à 2015. Il raconte 50 ans de carrière et 50 ans de crise dans son ouvrage de notre correspondant à Jérusalem, La Grande et la Petite Histoire. C'est passionnant. Enfin, Joey Starr, rappeur sulfureux, fondateur de NTM, qui est devenu un comédien très courtisé, au point que TF1 lui a commandé une série qui démarre ce soir à 21h. Ça s'appelle Le Remplaçant, dans laquelle il incarne cette série un prof. Mais évidemment, pas comme les autres, et c'est tant mieux. Il y aura en prime son portrait inattendu, pas comme les autres, par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Et bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire Antoine, de votre journal des médias.
Une crise ouverte à Nice ce matin, le casting du prochain Koh-Lanta et puis un jeune magazine de sport pour les ados.
Mais d'abord, c'est lundi, les audiences avec vous Louise, avant le week-end, qu'ont regardé les Français hier soir?
Eh bien, ils ont suivi l'ordre de la télécommande. Hein. C'est 1, 2, 3 ce matin,
ah,
TF1, mais
bien.
C'est le cinéma, vous allez voir, qui l'emporte largement. Hein. TF1, le film Ant-Man a absorbé, attiré, pardon, 5 290 000 téléspectateurs, 22,7% de part d'audience. C'est quasiment le même score que lors de sa première diffusion en 2018. Ensuite, c'est France 2 avec le film Voyez comme on danse, 4 360 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience. Bon score hein, pour France 2 qui d'habitude fait un petit peu moins le dimanche soir. Et puis c'est France 3, donc téléfilm Les Enfants de Vindermar, un nouveau téléfilm, 2 460 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience. Petite déception du côté de Zone Interdite et son doc Pompiers de Paris, un an au cœur d'une unité d'élite qui attire seulement 1 940 000 téléspectateurs, 8,1% de part d'audience.
Et la question typique du lundi est ce week-end.
Encore un week-end où TF1 doit se contenter d'une deuxième place pour ses primes, battu samedi soir par la série de France 3. Mangeville a attiré 5 millions de téléspectateurs.
Oh là là.
Ouais, c'est une fiction qui marche toujours très bien.
Ouais.
Hein. C'est d'ailleurs le même score que lors du précédent épisode en novembre dernier. Un très bon score au détriment de The Voice sur TF1, donc, qui fait son moins bon score de cette saison avec 4 600 000 téléspectateurs.
Et TF1 a donc été battu vendredi soir également.
Par France 2, cette fois-ci. C'était à nouveau le choc des titans, comme vous disiez la semaine dernière. Capitaine Marlowe versus Koh-Lanta. France 2 l'emporte donc à nouveau avec 6 290 000 téléspectateurs. En revanche, c'est 300 000 de moins que la semaine précédente. Et Koh-Lanta résiste bien, hein, 5 320 000 téléspectateurs. Plus important encore pour TF1, c'est un très gros score sur la cible commerciale. Plus de 40% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans.
Culture Média.
Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une un casting.
Bon, on vient d'en parler avec Louise. Koh-Lanta, c'est le casting de la prochaine saison. Saison événement, une édition All-Star pour fêter les 20 ans de l'émission. 20 ans, 20 candidats, 10 hommes, 10 femmes, qui ont tous déjà participé au jeu. Leurs noms ont été dévoilés par le Figaro. Hier, il y a 6 anciens vainqueurs, Laurent Mestré et Clémence Castel, par exemple, et d'autres candidats emblématiques qui ont toujours échoué, Freddy, Théoura et Claude encore. Pour découvrir le reste du casting, rendez-vous sur europe1.fr. Et pour voir cette nouvelle saison, eh bien, il vous faudra attendre le deuxième semestre de l'année prochaine,
deuxième semestre de cette année
2021. Le tournage vient tout juste de commencer jeudi dernier en Polynésie française.
Mike Horn, bientôt de retour à la télévision.
Oui, sur RMC Découverte, de retour 3 ans après sa dernière émission pour M6. Il va incarner une série documentaire, Mike Horn, survivre à l'impossible. Il s'agit de raconter les grandes expéditions de l'aventurier en utilisant les images qu'il avait alors tournées, information du Parisien.
Le focus programme du jour, c'est un documentaire diffusé ce soir sur France 2.
Oui, un film à la fois joyeux et touchant, alors que le sujet ne s'y prête pas a priori, la vie dans un EHPAD. Mais voilà, l'établissement qui a été filmé avant la crise sanitaire est original. C'est une coopérative, cela signifie que les occupants et le personnel travaillent ensemble à améliorer les conditions dans lesquelles les personnes âgées vont terminer leur vie. Anne Hirsch, la réalisatrice du documentaire.
Les gens sont investis de quelque chose bien au-delà de leur fonction de base. Ça change qu'on tend tous vers la même chose, c'est-à-dire on tend vers cette possibilité de donner aux gens la joie de vivre jusqu'au bout, la présence jusqu'au bout, de ne pas s'abandonner à leur déchéance et d'au contraire rester totalement acteur de leur vie jusqu'au bout. Et ça effectivement, c'est peut-être pas partout.
La vie au grand âge d'Anne Hirsch et Romain Hamdan, c'est un regard sur l'EHPAD très différent de ce que les reportages ont l'habitude de montrer. Ils sont plus souvent tournés vers les dysfonctionnements de ces établissements. C'est un documentaire aussi sans commentaire pour laisser plus de place à la parole des soignants et des résidents. Et évidemment, la question de la mort n'est jamais très loin. Elle est traitée avec beaucoup de pudeur par les réalisateurs et avec une lucidité déroutante par les résidents. C'est diffusé dans la case infrarouge ce soir à 23h05 sur France 2.
On va parler de presse-papier, crise ouverte à Nice ce matin.
Les salariés ont voté une motion de défiance vendredi dernier, motion adoptée à l'unanimité contre le repreneur du journal NJJ Holding de l'homme d'affaires Xavier Niel. Il lui reproche des investissements moins importants que prévu, de possibles départs contraints et puis un tirage qui baisse fortement, moins 11,5% l'an dernier.
Et l'État va aider les radios et les télévisions locales.
C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Culture hier. Une aide publique va être proposée à ces médias locaux pour compenser la chute de leurs revenus publicitaires, des revenus qui, pour certaines radios, représentent près de 100% de leur budget.
L'actualité des médias à l'étranger, deux pays, deux infos.
À la Grèce d'abord, un journaliste a été abattu à Athènes vendredi après-midi, Georgios Karaivas, journaliste d'investigation. Il rentrait chez lui quand deux hommes à scooter l'ont exécuté de plusieurs balles dans le corps. Une attaque programmée et réalisée par des professionnels selon la police grecque. Certains des collègues de Georgios Karaivas ont souligné que le journaliste enquêtait sur plusieurs affaires sensibles, même si aucun lien pour le moment n'a été formellement établi entre son travail et son assassinat. Les États-Unis, ensuite une nouvelle recrue pour Fox News, encore un proche de Donald Trump, Mike Pompeo, ancien secrétaire d'État. Il sera l'un des éditorialistes de la chaîne. Il donnera son avis sur les relations internationales et sur la politique américaine. Avant lui, Kayleigh McEnany avait déjà rejoint la chaîne ultra-conservatrice, une chaîne qui cherche ainsi à regagner un des points d'audience perdus depuis novembre dernier, lorsqu'elle s'était résolue à reconnaître la défaite de Donald Trump.
Du sport avec le nouveau numéro d'un jeune magazine de sport.
Oui, un magazine unique sur le marché. Il s'appelle Sportin. Un bimestriel qui s'adresse aux enfants et aux ados les 9-14 ans. On peut dire que c'est un petit nouveau, puisque c'est seulement son troisième numéro, il sort aujourd'hui. À la une, l'Euro de football qui commence dans deux mois et à l'intérieur, beaucoup d'images et des textes très courts dans lesquels il est question de sport, bien sûr, mais aussi à travers le sport, d'histoire, de géographie, de science ou de santé. Sportin parle du sport dans toute sa diversité. Il met en avant aussi bien des athlètes handicapés que valides et aussi bien des femmes que des hommes. Laurence Bureau, créatrice et rédactrice en chef de Sportin. La voix, vous allez l'entendre un petit peu en roue.
Il n'y a pas de homme-femme, c'est des sportifs. Ça nous paraissait évident de mettre autant de femmes que d'hommes. La question, c'est à la limite même pas posée, quoi. On est avant tout journaliste. Donc si on informe, on informe sur tous les sujets, sur toutes les catégories d'hommes ou de femmes, sur tous les statuts sportifs renommés, champions, ou au contraire pépites en devenir.
Pour lire Sportin, il faut aller sur son site internet, sportin.fr. Ça s'écrit Sportein. Ça marche par abonnement. Le magazine n'est pas disponible en kiosque.
Ou à l'unité.
Ou à l'unité.
Sur le site internet, on peut l'acheter à l'unité, pas que par abonnement.
Précision de Louise Bernard, que je salue. Je salue également Antoine Genton. On vous retrouve demain pour les audiences et un nouveau journal des médias.
Demain.
À demain.
Salut Philippe.
À demain. Suivre dans notre info média du jour, focus sur les nombreuses pressions subies par les médias locaux d'investigation. Nous en parlons avec Morgane Large de Radio Crèze-Brèze et Julien Vinzant, il est président du site d'information Mars Actu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Ce sont des actes qui ne devraient pas exister dans un pays censé garantir la liberté de la presse, des appels anonymes, des menaces de mort et puis il y a deux semaines, des actes de sabotage, des boulons retirés sur une roue de voiture. Tout cela s'est passé en France et visait une journaliste, journaliste qui enquête sur l'agro-industrie en Bretagne. C'est dans cette région qu'elle travaille pour une radio locale, radio elle aussi menacée. Et cette affaire met en lumière une réalité dont on parle peu, les pressions subies par les médias locaux, particulièrement les médias qui font de l'investigation, qui publient des enquêtes. Des pressions politiques, économiques et donc parfois physiques. Bonjour Morgane Large.
Bonjour Philippe.
C'est vous dont je viens de parler dans l'introduction, vous dont la voiture a été sabotée. Vous êtes journaliste pour Radio Crèze Braise, une radio associative bretonne. Avec nous également Julien Vinzan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne de Marseille, vous êtes journaliste, président de Mars Actu, site d'information et d'investigation locale Marseille et Bouches-du-Rhône. Vous avez notamment travaillé sur le système Guérini, sur la sénatrice Samia Ghali ou sur le professeur Raoult. Morgane Large, d'abord, en quelques mots, sur quoi portent vos enquêtes ?
Eh bien, mes enquêtes, elles portent sur des choses, je trouve, qui font pas trop débat quand même. La dernière enquête que j'ai faite, c'était sur la politique de la région Bretagne en matière d'agriculture, et notamment l'aide aux poulaillers de grande dimension, l'aide de la région de 50 000 euros par poulailler, qui pose question dans pas mal d'endroits où il y a ce type de projet.
Qui pose question ou qui pose problème ?
Pour l'instant, ça pose question. Après, je pense que lorsqu'on est interpellé par les associations environnementales qui nous disent que la Bretagne est en surchauffe environnementale et qu'il faut absolument baisser le nombre d'animaux, eh bien, et qu'on voit le phénomène des algues vertes qui n'est pas du tout en passe d'être réglé quand même en Bretagne, ça pose sans doute à terme problème. Oui.
Vous aviez...
Et puis il y a autre chose qui pose problème, c'est, quand un vice-président en charge de l'agriculture à la région Bretagne, qui est ancien président de la FDSEA départementale, dépose dans les enquêtes publiques en faveur des projets, alors que ce n'est pas l'endroit où doivent s'exprimer la parole politique. En vérité, ça constituait, et c'est ce que j'ai dit dans mon travail, ça constitue une forme de pression sur une commissaire enquêtrice.
Vous aviez également enquêté sur les dégâts causés par l'agro-industrie en Bretagne. Nous vous avions joint il y a une semaine, Morgane Large, pour le journal des médias. Vous nous disiez alors que vous vous sentiez fragilisé, que vous aviez peur. Je rappelle, c'est vous qui avez découvert votre voiture avec une roue dont les boulons avaient été retirés. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, quand j'entends votre journal et que j'entends ce journaliste à Athènes, ce journaliste d'investigation qui a été tué, je me dis que c'est terrible. J'ai peur, oui, j'ai peur qu'on mette le feu à ma maison, en fait, quand je dors. J'ai peur qu'il y ait d'autres choses. Ce ne sera pas des attaques frontales, je pense. Mais c'est toutes ces choses bien qu'on peut, justement. Enfin, moi, je n'ai pas suffisamment d'imagination pour savoir ce qu'on va me réserver comme ça.
Vous nous disiez précédemment que vous ne saviez pas comment vous alliez faire pour retourner sur le terrain. Est-ce que vous y êtes retourné ? Est-ce que vous avez continué à enquêter ?
Non, je ne suis pas retournée sur le terrain depuis. C'était assez récent, c'était le 31 mars. Oui, je ne suis pas retournée sur le terrain parce que j'étais en vacances cette semaine. Mais c'est toute la question, c'est comment je vais retourner sur le terrain ? Comment je vais oser aller dans des endroits où j'allais de manière très détendue auparavant, quoi. Même, en fait, là je commence une autre enquête, même passer des coups de fil, en fait. J'ai des menaces par téléphone. Je passe un coup de fil à une très grosse coopérative en demandant une interview et on me dit « mais on ne vous a rien commandé, on ne vous a pas demandé d'article ». Donc je dis ben oui, enfin c'est un peu le jeu. Je vais pas forcément là où on me demande. Quand je vois que l'interview va pas être possible, je dis écoutez, c'est pas grave, je renonce. Je marquerai soit dans mon article, soit je dirai à la radio que vous n'avez pas souhaité vous exprimer. Et là on me dit ah mais non, si vous faites ça, on vous attaque en diffamation. Si notre nom apparaît, je vous promets que vous aurez des ennuis. Donc c'est très très compliqué. Un simple coup de fil, ça peut aboutir à cela.
On va y venir à ces attaques judiciaires. Je me tourne vers vous, Julien Vinzan. Vous faites également de l'investigation à l'échelon local, comme Morgane Large, mais là je l'ai dit, c'est sur la région PACA autour de Marseille. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu parler de ce qui lui est arrivé ?
C'est terrible, c'est un peu glaçant et qu'il me soit permis de lui adresser tout mon soutien à distance pour ce que ça vaut. C'est une situation dans laquelle on ne devrait pas se retrouver. Morgane, elle fait son travail, comme elle l'explique, et elle se retrouve dans une situation où elle ne sait pas si elle doit continuer à le faire parce qu'elle craint pour sa sécurité, elle craint pour ce qu'on peut lui faire. Donc ça, c'est glaçant et on se dit que effectivement il y a encore des choses comme ça qui peuvent se passer, des pressions qu'on n'imagine pas forcément. C'est vrai que nous, dans notre travail quotidien, on est habitué à des choses plus institutionnelles, plus policées, qui sont souvent plus insidieuses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sans conséquences. Mais c'est vrai qu'on a eu, nous, dans notre histoire, à des moments, quelques surgissements aussi dans certains milieux où on voyait que, en fait, ça pouvait assez vite déraper, quoi. On l'a pas vécu, nous, personnellement, mais moi, j'ai une de mes sources, un de mes contacts, ont travaillé sur des enquêtes dans le milieu de la chasse. Il s'est fait donner rendez-vous sous prétexte de lui fournir des informations sur ça, et il s'est fait agresser à coups de marteau. Bon, ben, quand je l'ai eu au téléphone les jours après, je me suis dit, mais c'est... Alors, on a mis les pieds dans un milieu où on peut faire ça.
Alors, je dois dire que Morgane Large, vous n'êtes pas toute seule. Il y a un rassemblement qui a été organisé à Rostrenen, dans le centre Bretagne, mardi dernier. Près d'un millier de personnes étaient présentes pour vous soutenir et plus largement pour soutenir la liberté d'informer, parce que vous n'êtes pas la seule à avoir été ciblée dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Pourquoi cette mobilisation?
Bien, en fait, la mobilisation, elle intervient parce que c'est de plus en plus compliqué de couvrir ces sujets. Les journalistes sont accusés d'être militants. Il y a aussi la cellule Déméter qui est apparue et qui fait craindre aussi pour notre travail, parce que il y a cette cellule donc qui est censée protéger les agriculteurs contre l'agribashing. En fait, elle a été faite pour protéger, je pense, davantage l'agro-industrie.
Ouais, c'est une cellule
qui
a été créée par la...
pose vraiment question.
C'est une cellule qui a été créée autour de la gendarmerie nationale, c'est bien ça?
Voilà, autour de la gendarmerie nationale. Et nous, quand on voit qu'il y a une confrère allemande qui est venue sur ma commune, nous avions rendez-vous le lendemain, qu'elle a eu une altercation avec un agriculteur qui, au départ d'ailleurs, ça s'était très bien passé, et que l'agriculteur est revenu dans son gîte avec les gendarmes et que les gendarmes l'ont obligé à effacer sa bande, eh bien moi ça me pose question sur la suite en fait de mon histoire, parce que je vais porter plainte, mais je ne sais pas qui va être saisi de l'enquête, et je me pose des questions sur le recul suffisant ou pas que peut avoir la gendarmerie pour intervenir quand je sais qu'elle demande à des reporters étrangers d'effacer des enregistrements.
Et ça va même plus loin que ça, puisque d'une manière plus générale, votre radio également a subi des pressions économiques, et même certaines subventions publiques qui ont été retirées. Comment cela est-ce possible? On en parle avec vous, Morgane Large, vous êtes journaliste pour cette radio, Radio Crèze-Bresse, et avec le journaliste Julien Vincent, président de Mars Actu. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de sites, de journaux, d'informations et d'investigations locales qui subissent des pressions, comme notamment Mars Actu, présidé par Julien Vincent, qui est notre invité. Également Morgane Large, vous êtes journaliste à Radio Crèze-Bresse, je vais arriver à bien le dire. Et vous avez vous-même subi des pressions et même des menaces larvées, puisque vous avez retrouvé un jour votre voiture avec les boulons d'une roue qui avait été retirée. Votre radio également subit des pressions économiques, et certaines subventions publiques l'ont été retirées. Est-ce que vous savez pourquoi précisément, au nom de quoi, et est-ce qu'ensuite ça met votre radio en danger?
Alors, je ne sais pas pour Julien et pour Mars Actu s'ils sont dépendants de subventions, mais nous on est une radio associative locale et on vise avec 80% de subventions. Donc j'avais reçu des opposants à un projet de porcherie industrielle sur une commune très proche. Les porteurs de projet n'avaient pas souhaité s'exprimer à la radio. Ils ne voulaient pas s'exprimer. La porcherie n'était pas encore construite à l'époque. Elle l'est depuis. Et pendant cette émission où les opposants nous disaient, eux, toutes les inquiétudes qu'ils avaient autour de ce projet, le maire avait téléphoné pendant l'émission et avait dit « Votre subvention, c'est terminé ». Donc en fait, il faut savoir aussi que cette agro-industrie, elle investit, enfin, et elle investit les conseils municipaux, et pas que, hein, les communautés de communes, enfin, toutes les instances. Et puis, c'est arrivé à une autre reprise qu'on nous retire des subventions. J'avais témoigné au micro d'Inès Leroux, qui est une journaliste formidable, qui a fait un travail exceptionnel en Bretagne, notamment sur les algues vertes, à travers d'une BD, mais qui a aussi parlé de l'agroalimentaire dans son journal breton sur France Culture. J'avais témoigné en tant que conseillère municipale. À la suite de mon témoignage, la commune de Glomel, où j'étais conseillère dans la minorité, donc, a retiré sa subvention à ma radio en disant que pour eux, moi, élu et ma radio, c'était exactement la même personne. Et puis la radio a aussi subi des dégradations de ses bâtiments au mois de décembre, après un témoignage que j'avais fait sur France 5. Là aussi, je le faisais sur un autre média, mais c'est ma radio qui a subi ces dégradations.
Je me tourne vers vous, Julien Vincent. Est-ce que vous avez toujours connu des menaces depuis que vous avez commencé à travailler pour Mars Actu ?
C'est une situation qui est assez courante, mais qui va pas jusqu'au paroxysme qui touche Morgane. Moi, je le disais au début, c'est souvent beaucoup plus insidieux, en fait. C'est le fait d'être refusé dans des conférences de presse par des élus parce qu'on a écrit sur eux, donc on se fait fermer des portes. C'est des mails, des invitations qui, comme par hasard, partent pas. Souvent une difficulté, des bâtons dans les roues pour faire notre travail de la même manière que peuvent le faire d'autres médias.
Ouais, vous avez quand même subi des insultes et des cambriolages.
Oui, on a eu effectivement ces moments qui correspondaient en plus à la relance du titre après une liquidation judiciaire. On a relancé Mars Actu avec un modèle sur abonnement. Et c'est vrai que les premiers mois ont été marqués par deux cambriolages à quelques jours d'intervalle qui nous ont fait un petit peu nous inquiéter pour notre travail sur la manière dont
Qu'est-ce qui a été volé ? Est-ce que c'était des objets de valeur ou est-ce que c'était, par exemple, des disques durs qui vous empêchaient de travailler ? Est-ce que le cambriolage était ciblé de manière, si j'ose dire, journalistique ?
Le premier cambriolage pouvait passer pour crapuleux parce que on nous a vidé l'intégralité des ordinateurs de la rédaction. Ça peut avoir une valeur marchande, mais quand on revient quelques jours après et qu'on retourne le moindre placard et qu'on sort tout et qu'on voilà, manifestement on cherchait des dossiers quoi. Ça a été un moment où on a pris conscience aussi du rôle qu'on pouvait avoir et du fait qu'on pouvait fortement déranger qui on ne sait pas parce que l'enquête n'a jamais rien donné. Et oui, effectivement, on a eu aussi à plusieurs moments des coups de fil anonymes avec des insultes, avec des menaces voilées. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un peu cette incertitude dont parle Morgane. On ne sait pas d'où ça vient, finalement.
On a
plusieurs des enquêtes sur le feu à chaque fois.
C'est un sujet très intéressant. Vous dites que vous ne savez pas d'où ça vient, mais on sait quand même un peu, parce que quand on habite en région, on vit à côté de gens qui sont touchés de près ou de loin par vos enquêtes et qui sont parfois des voisins très proches. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre travail à tous les deux, Morgane et puis Julien ? Morgane Large.
Moi, quand j'entends Julien raconter les rendez-vous où on est accueilli à coups de marteau, ça me fait très peur parce que le côté génial de notre travail, c'est qu'on part avec une petite sacoche tout seul. Moi, c'est ce que je fais et je vais partout. Et des fois, c'est très très long de pouvoir obtenir la confiance des gens, mais on l'obtient justement par ce côté aussi tellement inoffensif et puis sincère. Enfin, on est dans du relationnel, quoi. Et moi, ça va être particulier, ce retour au travail. Je ne sais pas comment je vais l'aborder, en fait.
Ouais.
J'ai peur. Oui.
Dans une région rurale, il est assez simple de savoir où habitent les gens. Tout le monde se connaît. C'est plus difficile quand on habite une grande ville comme Marseille. Est-ce que l'adresse de Mars Actu, pour ne prendre qu'un seul exemple, est-ce que votre adresse, celle de Mars Actu, est publique, Julien Vincent ?
Oui, parce que... on prétend pas se cacher, on sait, enfin on est pas non plus naïf et puis c'est important aussi de garder un contact, de pas être hors sol. Mars Actus, un journal local, et on a quand même une partie de nos informations qui nous viennent par des gens qui sonnent, par des gens qui nous adressent des courriers, qui nous envoient des infos. Voilà, on peut pas se couper totalement de notre terrain en disant qu'on en a peur. Ce serait d'avoir vraiment la mauvaise attitude. On est là et on est bien là et on entend faire notre travail. Donc notre adresse, elle est sur notre site, et nos journalistes, ils sont sur le terrain tous les jours. Voilà, il faut qu'on arrive à casser un peu cette idée qu'on serait pas les bienvenus. On est serbe dans une pratique qui est peu fréquente. Hein. C'est D'accord. vrai qu'on détonne un peu. On est
Je vous interromps parce que j'ai encore plein de questions à poser. Morgane Large, il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, sont les procédures Bayon, ces procédures judiciaires lancées en nombre par une entreprise ou un secteur contre les journalistes. Inès Léraud, vous parliez d'elle, journaliste, travaille également sur l'agro-industrie en Bretagne, on est la victime. Est-ce que vous-même, vous en avez été la cible de ces procédures Bayon?
Non. Alors c'est ça qui est quand même particulier, c'est que moi j'ai subi la vindicte du monde agroalimentaire et notamment avec des parutions dans les journaux professionnels agricoles pour dire que le documentaire dans lequel, par exemple, j'avais témoigné, c'était de la désinformation, que France 5 avait fait de la désinformation. Il n'y a jamais eu une plainte en diffamation. Mmh. Le média pour lequel je travaille, Radio Crazy Braise, que je travaille aussi parce que je travaille sur plusieurs médias, n'a jamais eu de problème de déontologie, de procès. Jamais. Donc Inès Léraud, elle a dû faire face à deux procès Bayon, dans lesquels à chaque fois qu'elle a été attaquée, donc elle a mis des mois à préparer sa défense, et quelques jours ou même la veille du procès, la plainte est retirée.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'elle n'a pas travaillé pendant tout ce temps-là. Donc on précarise les gens, on les met dans des situations où ils sont obligés de donner beaucoup d'informations sur eux, mais aussi beaucoup d'informations sur leurs sources.
Ouais.
Et ça, c'est quand même la protection des sources, c'est capital. Enfin, quand je vous disais qu'on avait une relation de confiance avec les gens, moi, si des gens me disent « je suis d'accord pour témoigner, mais je veux rester anonyme », parce que ça arrive de plus en plus souvent, on me donne rendez-vous à 15 kilomètres au milieu de nulle part, près d'un lac, sur un banc, enfin... Eh bien, j'ai surtout pas envie de donner mes sources. Enfin, je trouve que ce serait complètement déloyal par rapport à mes témoins.
Vous avez annoncé votre intention de porter plainte. Est-ce que vous l'avez fait ?
C'est en cours. C'est en cours. Je me fais aider par Reporters sans frontières qui m'a proposé son aide parce que j'ai envie que cette plainte elle aboutisse, parce que j'ai pas envie que ça arrive à d'autres journalistes, à mes collègues qui sont aussi exposés que moi. Là, il y a un focus sur moi, mais je pense que je suis pas la seule. J'ai des collègues aussi qui vivent des heures assez difficiles. Et puis moi, ce que je trouve inadmissible, c'est être interpellé dans l'espace public, c'est normal. Ne plus être invité aux conférences de presse comme j'ai pu l'être aussi pendant un moment. Ça, je trouve ça déjà beaucoup moins normal, mais attenter à la sécurité des gens et puis à celle de leur famille surtout.
C'est une évidence, c'est
complètement inadmissible.
Et ça va toujours mieux en le disant. Merci beaucoup Morgane Large, merci d'avoir été avec nous. On sent à votre voix votre émotion et on la partage. Journaliste pour Radio Crèze Braise. Merci Julien Vincent, vous êtes le président de Mars Actu. On va parler de journalisme encore avec une figure du monde du journalisme, Charles Anderlin, qui va nous raconter sa vie mouvementée. Le mot est très très faible en tant que correspondant à Jérusalem pendant presque un demi-siècle. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Charles Anderlin.
Bonjour.
Bon, je vous entends parfaitement. Où êtes-vous exactement, Charles Anderlin ?
Ben écoutez, chez moi, Jérusalem.
Vous êtes une figure dans le monde du journalisme, pas seulement français mais international. Vous avez tenu le bureau de France 2 à Jérusalem de 91 à 2015, une sorte de record. Et votre actualité, c'est un essai, un récit. Ça s'appelle « De notre correspondant à Jérusalem ». C'est publié aux éditions Don Quichotte. Quelle est l'ambition de ce livre ? Est-ce que c'est raconter 34 ans de votre vie de correspondant de France 2 à Jérusalem, comme il est dit dans le titre, ou alors retracer un demi-siècle d'espoir et de violence au Moyen-Orient, comme il est dit dès la première phrase ?
Écoutez, l'idée de ce livre est venue en fait de conférences que j'avais données en 2018 à la Maison des Sciences de l'Homme à Paris chez le professeur Michel Wieworka. Et l'idée, c'était d'expliquer le travail du correspondant, du journaliste en poste à l'étranger. Et de ces conférences est sorti ce livre. Il s'agit en fait d'essayer d'expliquer au lecteur comment ça fonctionne, quelles sont les relations entre l'envoyé spécial, le correspondant et la rédaction. Quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face dans un pays qui est assez agité, où il faut être sur la ligne de fracture entre deux sociétés en conflit. Enfin voilà, c'est ça l'idée de base du livre.
Vous revenez sur votre carrière de journaliste, mais également votre parcours de citoyen. Je vais faire une rapide bio de vous-même. Vous êtes franco-israélien, vous avez démarré votre vie en France, vous avez fait médecine à Nancy, puis la tornade mai 68 est passée par là. Vous avez quitté la France pour Israël, dont vous avez le passeport, je brûle des étapes. Vous avez été correspondant pour la radio RMC en 73, puis pour Antenne 2 à partir de 81, et vous avez été nommé chef du bureau de France 2 à Jérusalem en 91. Alors dans ce livre, il y a de la grande et de la petite histoire, vous êtes témoin de beaucoup d'événements, mais cela va même plus loin que ça parce que vous en êtes parfois acteur, partie prenante, comme lorsque vous aviez prêté votre bureau à des émissaires palestiniens et israéliens pour qu'ils puissent se rencontrer en toute discrétion, voire négocier. Ça s'est passé, si j'ose dire, sous votre égide.
Écoutez, oui, maintenant, mon grand problème était justement de ne pas intervenir. C'était une époque, c'était les tout débuts de la seconde intifada, fin 2000. Les négociations étaient officiellement bloquées. Le Premier ministre Ehud Barak refusait de relancer les discussions, officiellement de relancer les discussions avec les Palestiniens. À ce moment-là, j'étais en train de préparer un livre et un film, justement, sur la relance du processus de paix par Ehud Barak. Je faisais des interviews en temps réel avec les deux parties, aussi bien avec des dirigeants israéliens qu'avec des négociateurs palestiniens, le chef de cabinet de Barak, en promettant de ne jamais dire à l'un ce que l'autre m'avait révélé, étant entendu que tout cela serait dans un film ou dans un livre beaucoup plus tard. Mmh. Et puis un beau matin, alors que tout était théoriquement bloqué, j'ai un émissaire européen qui m'appelle et qui me dit « Écoute, dans ton bureau, tu vas interviewer Saeb Erekat, le négociateur palestinien. » Ah bon, d'accord. Saeb Erekat arrive et puis ensuite, tout à coup, je vois un ministre israélien arriver, il s'enferme dans mon bureau. Mon problème était en aucun cas juste d'être, si vous voulez, celui qui loue la facilité, de ne pas participer, de ne pas intervenir. C'est ce que j'ai plus ou moins réussi à faire. Il y a une seule fois où j'ai failli dire à l'un ce que je savais de l'autre. Mais cela m'a permis effectivement, à partir de là, de faire aussi bien le film « Le rêve brisé » que le livre.
Et jeudi, dans Libération, Alexandra Schwarzbrod écrivait « La plupart des journalistes envoyés en poste dans un pays en guerre ou déchirés entre plusieurs cultures, peuples ou religions, ont éprouvé un jour ce sentiment d'être eux-mêmes déchirés. Est-ce que vous reconnaissez dans ce déchirement ?»
Écoutez, oui, j'ai quand même, israélien, français, juif, j'ai assisté à des moments extraordinaires. L'arrivée d'Anwar el-Sadat à Jérusalem en 77, c'était l'équivalent de l'homme sur la Lune. Mmh. C'était absolument incroyable, on venait d'avoir quelques années plus tôt une guerre terrible avec des milliers de morts. Et on craignait la reprise de la guerre.
Mais ça, c'était pas un déchirement, parce que... Pardonnez-moi, ce n'était pas un déchirement, parce que vous étiez officiellement pour la paix. Est-ce que parfois vous vous êtes dit de quel côté je suis ? Parce que vous avez cette étonnante caractéristique d'être correspondant dans votre propre pays, puisque vous êtes israélien autant que français, ce qui vous a posé plein de problèmes, notamment au moment de la première intifada. Nous étions en décembre 87, et vous écrivez, page 66, à Paris. Au sein de la rédaction de France 2, une question se pose. Anderlin est israélien, peut-il couvrir le côté palestinien ? Je vous pose la question.
Bah écoutez, la réponse a été oui. Je suppose qu'il y a eu un moment où j'étais effectivement sous la loupe d'un certain nombre de personnes, y compris les rédacteurs en chef à Paris, qui ont fini par me donner absolument confiance et m'ont soutenu. Maintenant, le déchirement, oui. Le déchirement, c'est d'avoir assisté à l'effondrement du processus de paix. Connaissant les deux côtés, aussi bien les responsables israéliens que les responsables palestiniens, et j'ai rencontré à plusieurs reprises Yasser Arafat, j'ai passé des soirées avec Arafat à Ramallah et à Gaza, je sais que les deux parties pouvaient parvenir à un accord. Et ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait selon moi, en raison justement des extrémistes, des ultras des deux bords.
Mmh. Et pour être complet sur ce sujet, parce que tout ne peut évidemment pas se résumer aujourd'hui, ce matin, vous avez parfois été accusé d'être un agent du Mossad, et également vous avez été traité de juif qui avait la haine de soi et d'Israël. On en est là. Charles Anderlin, on va continuer à parler avec vous de ce livre, de cet essai, de notre correspondant à Jérusalem, et on a encore plein de questions médias à vous poser. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Charles Anderlin, journaliste, grand reporter, qui publie De notre correspondant à Jérusalem. On va parler médias. Vous avez été 34 ans en poste à Jérusalem. On va savoir comment ça se passait avec vos différentes hiérarchies à Antenne 2 puis à France 2. Déjà à la louche, en 34 ans de poste, vous avez connu combien de présidents et présidentes, combien de directeurs et directrices de l'info ?
Ah ben écoutez, là, vous me prenez tout à fait par surprise. Je n'ai pas fait le compte. Peut-être une bonne dizaine maintenant. Effectivement, à chaque fois qu'un nouveau président arrivait à France Télévisions, il y avait des changements dans la rédaction, que ce soit le patron de l'info, le chef de tel ou tel service. C'est une rédaction qui changeait beaucoup. J'ai gardé d'excellents souvenirs de patrons de rédaction qui sont devenus des amis très proches. Pour ne citer que Claude Carré, qui a été le premier à décider de me donner un CDI le 1er janvier 1991. Arlette Chabot, avec qui nous avons eu une véritable bataille judiciaire face aux gens qui m'accusaient d'avoir diffusé une mise en scène. Enfin, on a eu des périodes un peu intéressantes.
Et ça continue toujours, puisque rien que sous la présidence de Delphine Ernotte, je viens de le noter comme ça, et Michel Field était le patron de l'info, puis Yannick Letranchant, et maintenant c'est Laurent Guimier. Vous parlez des années 80 comme une période bénie. Internet n'existait pas, on vous fichait la paix. Ça allait même plus loin. Vous racontez, quand vous vouliez contacter Paris en cas d'urgence, il fallait trouver une cabine téléphonique, mettre un jeton dans la machine et les appeler en PCV. On a peine à le croire. C'était vraiment comme ça que ça se passait.
Ah oui, jusqu'à l'arrivée des téléphones portables. Et à ce moment-là, on a eu aussi l'Internet. Et puis ça a tout changé, parce que subitement, vous aviez un rédacteur en chef ou un patron qui vous appelait. Écoute, j'ai vu telle image sur les agences, ou alors telle chaîne a vu, alors je veux que tu la mettes dans ton sujet. Mais attends, ce n'est pas ce que j'ai filmé, ça fait rien, tu te débrouilles, tu le mets dedans. Et puis on arrive à distance, grâce effectivement au cloud, au nuage, à descendre une image qu'il faut utiliser. Ça a été une période un peu formidable, par exemple pendant la révolution en Égypte contre Moubarak. Moubarak a eu l'excellente idée, avant qu'il ne quitte le pouvoir, de fermer Internet, de fermer les téléphones portables. Et tout à coup, on se retrouvait à travailler comme à l'époque préhistorique, où il fallait utiliser une ligne fixe et puis appeler Paris, leur dire « Alors voilà ce qu'on a filmé, voilà ce qu'on vous envoie, et puis on a quand même un satellite ». Là, c'était plutôt sympa. Maintenant, depuis, je vois régulièrement mes confrères travailler en liaison permanente avec leur téléphone portable à la rédaction. Alors, j'écris quoi ? Je dis quoi ? C'est l'indépendance du journaliste, du reporter de terrain qui est en train de se perdre.
Ça va même plus loin, parce que vous racontez des exemples assez difficiles où on oblige des gens. Vous racontez, par exemple, ce que la rédaction en chef a imposé une fois à Alain Chalvron, grand reporter de France 2. Je vous cite, après l'élection en Birmanie d'Aung San Suu Kyi, le JT lui a demandé d'enregistrer un faux direct en lui communiquant au préalable le texte de son commentaire, et plusieurs de ses reportages ont été réenregistrés à Paris avec une autre voix que la sienne.
Bah, tout à fait, c'est ce qu'Alain m'a raconté. Personnellement, je n'ai pas eu de difficultés jusque-là.
Vous-même, vous n'avez jamais cédé.
Bah écoutez, non. Par exemple, on vous appelle, ne sois pas trop compliqué dans ton duplex, s'il te plaît, ne nous fais pas de diplôme. Et puis, manque de chance, je crois qu'effectivement, que les téléspectateurs ne sont pas des imbéciles et qu'ils peuvent entendre une analyse un peu poussée. Donc, je n'ai pas fait de cadeau de ce point de vue.
Il y a des scènes cocasses. Vous racontez une scène de 96, où ça se passe au sommet pour la paix de Sharm el-Sheikh en Égypte. Vous avez failli démissionner, mais finalement, non.
Ben oui, je m'étais mis d'accord avec Laila Shahid, la représentante palestinienne à Paris, et Jacques Chirac, qui m'avait à la bonne. Oui. Ils étaient tous les deux à Sharm el-Cheikh. Et ils ont dit à Arafat, vous donnez une interview à lui, à ce monsieur, à Charles Anderlin. Oui. Et Jean-Luc Manot, qui était le rédacteur en chef à ce moment-là, toute la rédaction était arrivée à Sharm el-Cheikh, il décide que ce n'est pas Anderlin qui fera l'interview, mais une autre collègue. Elle y va, et puis manque de chance, TF1 avait pris aussi quelques images de cette interview qui devait être exclusive. J'étais furieux, et finalement, c'est quand même moi qui suis allé faire l'interview. J'ai dû avoir la chance de passer un bon bout de temps aux côtés de Yasser Arafat, pendant qu'il recevait pas mal de responsables arabes.
Je vais vous dire pourquoi je souris, parce que vous écrivez « Je suis furieux, j'envisage de présenter à Jean-Luc Manot, c'était le patron à l'époque, j'envisage de lui présenter ma démission, mais j'y renonce parce qu'il est capable de l'accepter. » Donc vous êtes un peu quand même aussi dans la rodomontade.
Oui, il faut faire quand même attention.
Ouais. On découvre au passage que la retraite à 60 ans, ce n'est pas pour vous. En 2011, vous racontez la fin de votre carrière. C'est Thierry Tulier qui est le patron de l'info à l'époque. Maintenant, c'est le patron de l'info du groupe TF1. Il vous fait comprendre qu'il serait temps que vous pensiez à votre retraite. Et Éric Monnier, qui est son adjoint, vous met un marchand en main. La retraite est un petit poste d'éditorialiste. Je refuse, n'ayant pas confiance en cette direction, ils vont être contents de vous lire. Si c'est ainsi, me dit-il, tu rentres à Paris ou tu resteras au placard. Ils vont être contents de lire ça. Que s'est-il passé alors finalement du coup ?
Ben écoutez, j'ai décidé tout simplement de rester à Jérusalem pour des raisons de sécurité sociale, de cotisation. Voilà, maintenant, également pour des raisons administratives, il aurait été très compliqué de me ramener à Paris, où je n'ai d'ailleurs pas la possibilité de m'installer. Mon appartement est à Jérusalem, ma vie est à Jérusalem. Donc je suis resté jusqu'à mon 70e anniversaire, comme le prévoyait la loi.
Voilà, et puis on pourra lire sous votre plume cette rédactrice en chef du 20h qui vous expliquait que le conflit israélo-palestinien n'intéressait plus personne. Merci beaucoup Charles Anderlin, je rappelle le titre de votre livre, de notre correspondant à Jérusalem, avec un avant-propos de Michel Wieborka, c'est aux éditions Don Quichotte. Merci d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Culture Média continue évidemment. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc surprenant sur le monde des Sugar Babies et Bertrand Chamerois qui revient de vacances pour un écran de veille spécial bricolage. Notre invité, c'est le rappeur, mais il n'est plus seulement un rappeur, il est acteur, Joey Starr. Et quel acteur ? Il est dans la nouvelle série événement de TF1, c'est ce soir, ça s'appelle Le Remplaçant. Et puis dans Les Indispensables, une série documentaire sur le plus grand vol de tableaux et une découverte musicale très pop. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.